Thank you. Radio Classique. La musique avant tout.
Thank you.
Radio Classique. Radio Classique de nuit, tous les jours à minuit, sur Radio Classique. Radio Classique, la musique avant tout.
Bonjour à tous.
Dossier de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes à l'été 1617 dans la cathédrale Saint-Guy de Prague. Pour ceux qui connaissent Prague, évidemment, c'est un des hauts lieux de cette ville absolument somptueuse qui est devenue très baroque par la suite, qui déjà à l'époque possède en 1617 l'essentiel du patrimoine qu'on y voit encore. L'air est lourd d'encens, plus chargé qu'on ne l'avait connu depuis longtemps. Le cérémonial est un cérémonial catholique strict. tout à fait réglée. Les prélats sont nombreux, rassemblés autour du chœur, avec leurs chasubles très richement brodées, leurs hautes mitres, et avec des gestes lents, dans un latin de solennité, on répète les paroles sacrées. Ferdinand II s'avance pour être couronné roi de Bohême. C'est pas un prince de compromis, Ferdinand II. Sa piété est austère, tout à fait assumée, on le voit, là à genoux, qui, sans chercher du tout les regards de l'assemblée, prie longuement. Il est en entretien avec Dieu. Et autour de lui, l'aristocratie de Bohême occupe la nef. Les grands portent leurs habits de cour, éclatants ou sombres selon les lignages, avec les chaînes d'or, les manteaux doublés de fourrure. Beaucoup ont conservé l'épée au côté, c'est un signe de rang et d'autonomie. On ne verrait pas ça dans les cours occidentales, bien entendu, dans le cœur d'une cathédrale. Les armes familiales ont été brodées, gravées. Elles rappellent que le pouvoir du roi repose d'abord sur le consentement de ses grandes familles. Tous ont voté son élection. Ils observent en silence, parmi eux, pas mal de nobles protestants qui prennent acte d'un changement de ton. Oh, il suffit d'assister à cette cérémonie pour comprendre ce qui est en train de se passer. La vérité, c'est que dans cette assemblée, la moitié de l'aristocratie grince des dents. Pas par irrévérence, mais disons par inquiétude. Chacun sait ce que Ferdinand a fait dans les états héréditaires. Il a gouverné en roi catholique, pour pas dire très catholique, et à Prague ce jour-là, pour l'instant, il n'y a pas rupture, mais beaucoup dans ceux qui assistent à la cérémonie, nombreux sont ceux qui ont compris que l'équilibre est menacé. Ferdinand II n'est pas arrivé seul à Prague. Sa candidature était appuyée par son cousin, l'empereur Matthias, soucieux d'assurer la continuité dynastique au sein de la maison de Habsbourg. Et le soutien de l'empereur pèse lourd quand les États de Bohême se prononcent, vous l'imaginez. C'est ce qui va permettre donc à Ferdinand d'accéder au trône selon les formes du royaume. Il est roi de Bohême maintenant. Il hérite d'un pouvoir légal, assez fragile, disons-le, fondé sur, vous l'aurez compris, des concessions et des garanties mutuelles. On est encore dans quelque chose qui pourrait faire songer à l'ancienne féodalité. À ce moment précis, rien ne permet de mesurer la portée de cette élection. En cherchant à gouverner selon ses principes, eh bien, Ferdinand va mettre à l'épreuve le fragile équilibre très longuement constitué au sein de tous ces potentats de Bohême. Ce couronnement, qui est un couronnement après bien d'autres, ce couronnement ouvre en vérité une brèche. C'est le début d'une crise, qui va entraîner l'Europe dans une guerre qui va durer, elle, plusieurs décennies.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, je reviens un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Au siècle précédent, au XVIe siècle, on a vu la réforme s'imposer en Europe. Il y a eu des décennies de conflits religieux, il y a eu en France les guerres de religion. Vous savez, quand on arrive au début de ce XVIIe siècle, on est dans une sorte de statu quo, si vous voulez. Un équilibre précaire qui s'est installé avec des lignes confessionnelles posées, stabilisées, pas par apaisement, par épuisement. C'est ça la vérité, c'est que le combat a cessé, faute de combattants. Et la Bohême s'inscrit dans cet équilibre un petit peu incertain. Le royaume est protestant en majorité, dominé par les héritiers de Jan Hus, vous savez, les Hussites, ce qu'on appelle l'hussitisme. Aujourd'hui, on les appelle, aujourd'hui, au début du XVIIe siècle, les anciens Hussites, on les appelle les Utraquistes. Et ce royaume appartient au Saint-Empire romain germanique, qui est fondé lui-même sur l'élection et sur le compromis. Un Saint-Empire romain germanique officiellement catholique, mais dont de nombreuses parties sont évidemment protestantes. En 1609, le précédent empereur, il s'appelait Rodolphe, le grand empereur Rodolphe, Rodolphe II, a tenté de fixer, par sa fameuse lettre de majesté, un équilibre un peu plus stable. Le texte de la lettre de majesté garantit la liberté de culte aux protestants de Bohême. Il leur reconnaît des droits politiques précis, notamment le droit de s'organiser pour défendre les fameuses libertés si chèrement conquise au fil des combats. Ça supprime pas les tensions, ça, mais ça permet de les inscrire dans un cadre juridique et d'établir un équilibre politique. Vous voyez comme c'est complexe, hein. Et quand Mathias va succéder donc à Rodolphe, on est là en 1612, déjà on a vu les choses vaciller. L'équilibre a commencé à se fragiliser. Et il se trouve que Rodolphe n'avait pas d'héritier direct. Il prépare sa succession en désignant son cousin Ferdinand, dont il connaît l'intransigeance religieuse, catholique. Et dans le même temps, le centre du pouvoir s'est déplacé vers Vienne. Et les autorités catholiques de Bohême se sont donc senties renforcées par la monarchie habsbourg-viennoise, très catholique. L'élection de Ferdinand comme roi de Bohême en 1617 marque donc un tournant, là où les souverains qui l'avaient précédé gouvernaient par des ajustements, des conciliabules. Ferdinand a l'intention de gouverner selon ses principes, ce qui veut dire que la crise est en train d'apparaître au grand jour. Et dans la Bohême du Nord, à Broumov exactement, les autorités catholiques ont fait fermer déjà une église protestante qui venait d'être construite en plus. Et officiellement, l'argument était juridique, le bâtiment aurait été édifié sur des terres qui dépendent d'un monastère catholique, donc il n'avait rien à faire là. Bref, en attendant, pour la noblesse protestante, c'est un véritable choc. Les protestants de Bohême voient dans cette fermeture de temple une manœuvre délibérée pour essayer de contourner la lettre de majesté, sans l'abolir encore, mais quand même, c'est une entorse au contrat. Et après, à Klostergrab, qui est une autre église protestante, eh bien, on va assister à une démolition en règle, au prétexte que ce temple se trouvait sur des terres ecclésiastiques, encore une fois, avec un message clair, hein. On n'abolit pas la liberté de culte, seulement on la rogne, on l'encadre, on la restreint, et tout ça vont provoquer un grand choc. Ce qui jusque-là relevait de tensions un petit peu diffuses est en train de devenir une cause commune. Et pour les États de Bohême, qui sont majoritairement protestants, toutes ces décisions constituent la preuve que leur liberté religieuse telle qu'elle avait été garantie en 1609, cette liberté maintenant, elle est violée. Les protestants accusent le souverain catholique, l'empereur Mathias, et puis surtout son successeur désigné, Ferdinand II, roi de Bohême, d'avoir rompu le contrat politique qui les liait à la monarchie. Selon le texte de 1609, les protestants disposaient d'un instrument légal, les défenseurs. Ces défenseurs étaient désignés par les États pour veiller au respect de leurs droits religieux. Eh bien, en mars 1618, les défenseurs en question convoquent carrément une assemblée protestante. Là, la décision est prise. On va adresser à l'empereur une plainte écrite pour rappeler quelles garanties avaient été consenties et pour exiger des sanctions contre ceux qui commencent à vouloir remettre en cause la liberté du culte protestant. Et la réponse impériale arrive. C'est une lettre rédigée sous l'autorité d'un cardinal. La plainte des protestants de Bohême est rejetée. L'assemblée est déclarée illégal. Et toute réunion de ce type est désormais considérée comme interdite. Nous arrivons là à la matinée du 23 mai 1618. C'est ce 23 mai 1618 que vont avoir lieu les événements qui vont faire basculer complètement l'équilibre européen.
Thank you.
l'ouverture de l'Othello de Dvorak. À l'époque de cet enregistrement, en 1997, l'Orchestre Philharmonique de Berlin était dirigé par Claudio Abbado.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
C'est tellement beau, Prague, ça a l'air d'être une ville faite pour les fêtes et les plaisirs, et c'est une belle matinée qui a lieu en ce printemps. 1618, on est le 23 mai 1618, un mercredi, veille de l'Ascension, vers 8h30, 4 du matin, quatre hommes quittent la cathédrale Saint-Guy, ils viennent d'assister à la messe, hein. Ce sont les régents du royaume de Bohême qui représentent l'empereur Matthias. Ce sont donc des catholiques qui se rendent à la chancellerie du château pour recevoir une délégation protestante. Je ne sais pas si vous avez visité le château de Prague, très impressionnant là-bas sur les hauteurs de l'autre côté de la Vltava, qu'on appelle la Moldau en allemand. Aux yeux de tous ces représentants, hein, de l'empereur Matthias, il ne s'agit pas d'une réunion particulièrement difficile. Ils sont là pour rappeler à l'ordre les sujets qui sont un peu trop remuants. Voilà, ils sont venus faire des remontrances, c'est exactement ça. Alors ils arrivent, montent dans la tour, au troisième étage de la tour. Hein. On est en train de réarranger les bancs sans hâte. Tout ça a l'air pour l'instant relativement pacifique. Si je dis ça, c'est que vous doutez bien que ça va pas rester très très longtemps. Et puis un petit peu avant 9h, on entend du bruit dans la cour, des voix, des pas, une agitation inhabituelle. Et en se penchant à l'une des grandes croisées, des fenêtres si vous voulez, les régents découvrent un groupe qui est en train d'approcher du château. Or, contrairement à tous les usages et contrairement à ce qu'aurait voulu la moindre des politesses vis-à-vis des représentants de l'empereur, ces hommes qui s'approchent sont armés. Ils ont des épées très visibles, ils ont des dagues. Et la porte de la tour est ouverte, ce qui fait que le groupe va s'engouffrer dans l'escalier, gravir les marches 4 à 4 et bientôt se retrouver là dans la salle. Les régents reculent évidemment vers la cheminée, ils sont stupéfaits de ce qui se passe, mais pour le moment, ils sont pas vraiment inquiets encore. Après tout, ils représentent la puissance souveraine de l'empereur, hein. Ils pensent que c'est une démonstration, une façon un petit peu de les chahuter. Après tout, l'Empire existe depuis des siècles, hein. Prague a déjà connu tellement de troubles, et même bien plus graves. Les protestants, qu'ici encore on appelle les utraquistes, donc, ont déjà défié l'ordre établi depuis 200 ans. Mais la réponse qu'ils entendent n'est pas celle qu'ils attendent. Le porte-parole des protestants va lire une déclaration qui a été écrite, et les réformés maintiennent leur position au péril de leur vie, de leur honneur et de leur bien. Et là, il y a une question qui tombe. Les régents ont-ils participé à la rédaction de la lettre impériale qui interdit les assemblées ? Les représentants de l'empereur temporisent, ils promettent de transmettre la plainte à qui de droit. Bien sûr que l'empereur sera informé du mécontentement de ses bons sujets. On répondra plus tard. Non, non, on ne veut pas de réponse plus tard, on veut une réponse là, maintenant. Il y a carrément un homme qui a sorti son pistolet et d'autres qui se saisissent maintenant d'un des régents, il s'appelle Martinice. Il est frappé, enfin molesté, disons, désigné comme une sorte de responsable. Et puis on fait de même avec son assistant qui s'appelle Slavata. Et là, on prend une décision. Est-ce qu'on peut parler de décision ? Ça a été décidé très rapidement. Hein. On a ouvert la fenêtre. Et la fenêtre est quand même à 17 de nos mètres du sol. Hein. On est au troisième étage de cette tour. Hein. Et on est très haut. Martinice a compris. Il demande à un confesseur. On se moque de lui. Et puis, on le traîne maintenant jusqu'au rebord de la fenêtre. Il a juste le temps d'invoquer le Christ, la Vierge. Et le voilà, projeté dans le vide. La tête la première. Slavata, c'est très bien ce qu'il attend, hein. Il s'accroche comme il peut au rebord, c'est pathétique, et on va lui écraser les doigts pour le jeter à son tour avec encore plus de violence. Et puis leur secrétaire, qui s'appelle Philippe Fabricius, va être précipité, et là, chose incroyable, certains protestants se penchent depuis la fenêtre, et ils regardent, et ce qu'ils voient les surprend un peu. Ils aperçoivent les trois hommes, donc vous avez compris, on est une vingtaine de nos mètres plus bas, hein. Eh bien, les trois hommes en question sont pas morts, ils arrivent à se relever, et les voilà qui partent en courant.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Il y a un livre qui vient de paraître chez Passé Composé qui s'intitule 1566-1659, La guerre des nations, signée Arnaud Blin. Voici ce que dit Arnaud Blin à propos de cette défenestration de Prague. La tour en question et sa fenêtre existent toujours et on peut visiter les lieux comme le font des millions de touristes chaque année. Pour tout dire, aujourd'hui, le sol en pierre et la hauteur élevée de la fenêtre laissent à penser qu'une telle chute ne saurait être que mortelle. Mais à l'époque, le sol était mou. Et nous sommes au printemps probablement. Le sol est-il humide? Il est possible que des branches ou de l'herbe aient été entassées au pied de la tour, car, miraculeusement, les trois hommes sortent indemnes de leur chute, laissant la porte ouverte à toutes sortes de spéculations sur ce dénouement improbable. Certains affirment avoir vu la Vierge Marie attraper la cape de Martinich et qu'elle aurait déployé sous lui afin d'amortir sa chute. Dans sa relation des événements, Martinich lui-même dira ne pas avoir vu cela très clairement, bien que cela arriva effectivement. Plus prosaïquement, on attribuera généralement ce miracle à un tas de fumier sur lequel les trois hommes auraient atterri, explication la plus plausible. En tout cas, celle qui devait satisfaire le mieux les insurgés de Prague et tous ces protestants stupéfaits de voir survivre les trois hommes. Au pied de la tour, c'est bientôt la panique. Hein. Martinich, Slavata et Fabricius sont complètement sonnés, blessés, contusionnés, mais ils ont réussi à se mouvoir. Ils comprennent qu'ils peuvent pas rester sur place. Là, il y va de leur vie. En plus, il y a deux hommes qui se sont immédiatement lancés à leur poursuite, avec ordre de les achever, bien sûr. Les rescapés vont trouver refuge dans le palais voisin du chancelier. Et puis, Martinich va pouvoir quitter Prague et regagner la Bavière. Fabricius prend la route de l'Autriche et Slavata, qui lui est le plus touché des trois, va rester caché à Prague. On va essayer de le protéger. Évidemment, tous portent plainte, tous décrivent l'événement comme une tentative de meurtre, tentative préméditée, et vous imaginez, quand la nouvelle arrive à la cour de Vienne, l'incrédulité et la colère, l'autorité impériale a été publiquement défiée au cœur même du château royal de Bohême. La rupture, désormais, est consommée. À Prague, les États de Bohême vont prendre le contrôle du gouvernement et organiser la résistance. Vous avez bien compris que ces États sont protestants. C'est une assemblée, si vous voulez. Ferdinand II est déposé en tant que roi de Bohême. Vous voyez que finalement, il n'aura pas régné longtemps. Les insurgés élisent un souverain protestant, Frédéric V du Palatinat, ce qui, évidemment, rend le conflit d'un seul coup beaucoup plus vaste. Ça l'allémanise, si je puis dire. Car la Bohême n'est pas un royaume isolé. Hein. Elle est un nœud institutionnel du Saint-Empire. Et donc, c'est tout l'équilibre de cette espèce de mosaïque complexe qui se trouve mise en cause. Les princes catholiques vont se ranger derrière Ferdinand, les puissances étrangères protestantes hésitent et finissent par s'engager. Alors vous comprenez ce qui va se passer, c'est tout un jeu de dominos. L'Espagne va soutenir les Habsbourg, les Provinces-Unies, le Danemark, la Suède finalement vont intervenir et soutenir le camp d'en face. La France, qui pourtant est catholique, n'en est pas moins l'ennemi atavique des Habsbourg et va donc s'allier au camp protestant, non pas par solidarité religieuse, mais pour contenir une puissance impériale qui déjà était jugée menaçante, c'est la politique anti-Habsbourg de la France, et à partir de ce moment-là, ce qui est lancé, vous connaissez, parce que vous connaissez l'histoire, vous savez ce dont je suis en train de vous parler, ce qui est lancé, c'est la célèbre guerre de 30 ans. Ce qui commence donc comme une crise constitutionnelle en Bohême devient une guerre continentale marquée par un enchaînement d'alliances, d'interventions, de conflits imbriqués. Guerre qui va embraser, ravager l'Europe pendant 3 décennies. Cette guerre de 30 ans qui durera de 1618 à 1648, lorsqu'enfin la paix de Münster arrivera à mettre un terme à tout ça. Mais on sera déjà à l'époque sous la régence d'Anne d'Autriche et en France la férule du cardinal Mazarin. La défenestration n'est pas la cause unique de cette guerre, ça c'est certain, mais elle a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est elle qui a déclenché l'embrasement, cette espèce de meurtre inabouti, de meurtre avorté a déclenché la mort de dizaines, de centaines, de milliers de combattants à travers l'Europe tout entière.
Vous écoutez Radio Classique. Radio Classique. La matinale écho de Radio Classique
avec Stéphane Pedrazzi.
Très bon début de semaine sur Radio Classique. Il est 5h58, nous sommes le 19 janvier. Le spectre de la guerre commerciale plane à nouveau sur les relations transatlantiques. La France réclame une réponse forte face à la nouvelle augmentation des droits de douane américains. Donald Trump a en effet annoncé ce week-end une augmentation de 10% à partir du 1er février, qui pourrait grimper jusqu'à 25% à compter du 1er juin. La mesure concerne les 8 pays européens qui ont envoyé des troupes militaires au Groenland. Emmanuel Macron réclame l'activation du mécanisme anti-coercition de l'Union européenne. Il n'a jamais été utilisé, mais il a souvent été présenté comme l'arme nucléaire des relations commerciales. Avec quelles conséquences pour la France, pour l'Europe, pour les marchés financiers? On y reviendra ce matin à 7h15 avec Christopher Dembick de Pictet Asset Management. Il est 5h59. Dans un instant, le premier journal, mais d'abord la météo de ce début de semaine. Avec Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et au programme ce matin, le retour de la pluie.
Oui, sur le Languedoc-Roussillon et à l'est de la Corse, entre le sud de l'Aquitaine et le sud de Rhône-Alpes, il y aura également une forte humidité, ainsi que sur la façade atlantique. Les conditions évolueront assez peu durant la journée sur l'ensemble du pays. Les températures ce matin, il fait 13 degrés à Nice, 3 à Paris, 8 à Toulouse et 4 à Lyon. Et cet après-midi, vous aurez 11 à Biarritz.